on pourra continuer.
La géolocalisation en SHS, voilà, de la punaise sur la carte à la carte punaisée. Pourquoi ce sous-titre ? Des punaises, vous en avez vu ? Vous en voyez là encore ? C'est très joli. Mais moi, je préfère utiliser les punaises pour accrocher la carte sur le mur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la carte me plaît. Qu'à venir dans mon bureau, il y a déjà des cartes punaisées. On a beau être récemment installé à cet étage. Dès qu'on commence à punaiser une carte sur un mur, c'est qu'elle devient pertinente et intéressante. Donc, c'est ce qu'on aimerait vous faire ressentir par cette présentation, de passer à la carte avec des punaises, comme on faisait, comme Xavier l'a présenté, à une vraie carte pertinente et une vraie analyse spatiale pour découvrir l'espace. Donc, on est d'accord, on part d'un lieu localisé sur la Terre, et on a accroché à ce point des données. Alors, ce point peut être un objet, ça peut être vous, et on connaît de nous, de cet objet, plein d'informations que l'on stocke dans des tableaux. Alors, les systèmes d'information géographique appellent cette information, elle est dite attributaire, qui s'oppose à l'information typiquement spatiale qui décrit l'espace. Le point décrit l'espace, coordonnées x, y. On aurait pu avoir aussi une description de ligne, de zone, etc. On va partir sur des choses simples, le point. Et à chaque point, on peut stocker tout un tas d'informations. C'est réellement la question qui était posée tout à l'heure. La limite n'est pas... Il n'y a pas de limite à se faire plaisir et à stocker de l'information. Il y a trois raisons pour localiser. Donc, on retrouve un peu ce qu'a dit Xavier. Moi, je m'arrêterai à trois niveaux. Donc, l'inventaire des lieux, c'est le rôle de l'archivage. Je vais vous montrer deux applications sur le rôle de l'archivage et sur deux outils pour montrer, entre autres, le rôle du fond de carte dès qu'on a un semi de points. Ensuite, le premier niveau d'analyse de cet inventaire, l'exemple de la cartographie des Juifs à Paris dans les années 40 était instructif. Ce semi de points avait déjà procuré une première analyse de l'espace. On pourrait en avoir un autre en agrégeant l'information et en entrant plus dans une quantification de ces lieux. On entre alors dans le deuxième, la cartographie thématique. Le troisième, c'est l'analyse spatiale. Là, on intègre la distance, les notions de distance, l'espacement entre les lieux, les concentrations, l'identité. Je ne montrerai pas tout ce qui est modèle, simulation, prédiction. C'est un quatrième niveau qui serait plus de l'ordre du modèle multi-agent, de ces outils un peu complexes. Arrêtons-nous déjà à l'analyse spatiale. Il y a déjà pas mal à faire avec. Alors, en fil rouge... Il y en a une qui va se reconnaître.
Bonjour Elfie.
Thermicentre, en fil rouge, je vais vous présenter un projet qui n'est pas typiquement SHS, mais bon, puisqu'il y a des géographes, on va dire qu'il intéresse aussi les SHS, qui a pour but d'étudier les termites avec l'IRBI, donc un très gros labo de biologie en fac de sciences, à l'UFR de sciences et techniques, qui associe aussi l'INRA, qui associe tout un tas de partenaires, qui ont pour but, ces partenaires, de relever des termites. Ils sont là. Alors on les positionne, on les relève, dès qu'on en a vu, on vient avec son GPS, on relève les coordonnées, et quand on en a relevé, on relève tout un tas d'informations. Donc on est dans une boucle connue maintenant, le point, les coordonnées, la donnée. Toutes ces données sont de l'ordre du propriétaire. Bon, j'ai fait sauter les noms, mais avec des informations sur l'adresse, le type de traitement d'observation qu'on y a fait, le type d'espèce. Donc là, pour l'instant, on n'a que des réticulitermes, c'est le nom latin de ces termites indéterminés. Tiens, il y a un flavipes là en bas, etc. On accumule des données, plus des données biologiques donc, que l'IRBI est destiné à analyser. Et on a donc, au bout du compte, potentiellement une base de données assez importante, localisable. Donc le premier niveau va être de faire l'inventaire de ces lieux. Dès qu'on a un X et un Y, c'est facile, on peut remplir la carte de punaise. Moi, je préfère mettre des puces pour représenter des termites, d'autres histoires d'insectes, mais une fois qu'on a notre semis de points, donc là, c'est réellement le semis de points autour de l'Indre-et-Loire. L'embêtant, c'est que j'ai pas mis de fond de carte parce que je me suis posé la question de savoir quel type de fond de carte. Et plutôt que de mettre un éternel fond de photo aérienne ou un éternel plan de ville, le fond de carte le plus adapté ici va être plutôt un fond de carte adapté à notre thématique, ici les termites. Donc on va riper sur AGOL, donc ArcGIS Online. Faut que je me connecte. Regardez pas! Ça tient pas. Ah! Mais si ça marche. Voilà. Donc la première page d'accueil dont vous avez vu la copie, c'est celle-ci. C'est un environnement dont on peut personnaliser la page d'accueil, machin et tout. Là, j'ai mis le séminaire aujourd'hui, où l'on retrouve la première carte un peu préformatée. Donc à chaque fois qu'on a une couche d'information, on l'entre dans ArcGIS Online. Donc ma couche, elle est là. Ce sont les relevés d'octobre 2013 qui ont été faits. On peut le plaquer sur un fond de carte, ce qu'on appelle un fond de carte, et ArcGIS en propose un certain nombre. Mais vous voyez bien, c'est de l'imagerie, c'est de l'imagerie avec étiquette, c'est du plan de ville. On doit retrouver OpenStreetMap, tiens, c'est pas mal. La bathymétrie, ça ne m'intéresse pas puisque les termites ne savent pas nager. Du National Geographic, oui, bon. Il y a a priori pas trop de choses qui m'intéressent. Topographie, hein, c'est pas trop mal encore. Et effectivement, je l'ai mis là parce qu'il ne voulait pas que. Voilà, je vais le. Là, vous avez des propriétés où vous pouvez régler la transparence, renommer, afficher les légendes. Là, on est dans un fond de carte. Les fonds de carte ne sont pas modifiables. Ils sont figés. Enfin, là. Les choix graphiques sont figés. Par contre, les choix graphiques de la couche des termites, je peux les modifier. Et on retrouve, pour ceux qui connaissent un peu ArcGIS, des fonctionnalités assez classiques dans ArcGIS, notamment la symbologie, modifier les symboles, voilà. Donc les symboles, un seul symbole. Modifier le symbole. Alors là, c'est la joie et la bonne humeur. Vous avez tout un tas de symboles. Alors ça, c'est cartographique. Ça change un peu de la petite étiquette. Vous avez des trucs très rigolos de ce genre. Alors là, dès qu'on entre dans des symboles très figuratifs, ça devient illisible et de toute manière, ce n'est pas du tout conseillé par les cartographes éminents qui sont dans cette salle. En tout état de cause, quelles que soient les puces, les punaises que l'on colle sur ces points-là, le fond de carte ici ne me paraissait pas du tout adapté puisque, en discutant donc avec les spécialistes des termites, on sait que les termites sont arrivées. Les termites qui nous envahissent ici, c'est une espèce envahissante qui vient des États-Unis, qui est arrivée par les voies ferrées. Donc, en toute logique, il aurait fallu au moins avoir les voies ferrées, chose que je n'ai pas réussi encore à faire. J'ai eu simplement des logins et mots de passe ce matin pour pouvoir y mettre d'autres bases de données par le géoportail, donc ça c'est tout frais, mais j'ai pas réussi à l'intégrer pour aujourd'hui. En tout état de cause, on peut intégrer quand même d'autres bibliothèques, d'autres fonds de cartes. Il y a une bibliothèque assez intéressante dans les contenus SRI. Vous avez des tas de choses que l'on retrouve ici, mais vous avez surtout des choses propres à la France, où là, ah, c'est intéressant, on retrouve des trucs très spécifiques, tiens, les barrières de dégel de l'Allier, pourquoi pas. Vous avez Paris, alors ça doit être la carte de Cassini, la carte de Cassini, bon, pourquoi pas, le BRGM et la couverture topographique. Ah, une couverture topographique que l'on connaît bien, afficher, c'est une application ça. Donc c'est pas ce qu'il nous faut. Et j'avais surtout, bah tiens, par exemple, une occupation du sol, puisqu'on sait que les termites viennent par ouvrir dans la visionneuse. Oui. On sait que les termites viennent par les voies ferrées, mais on sait aussi, on se doute, on aimerait bien analyser leur position vis-à-vis des zones urbaines. Cette base de données, Corinne Landcover, c'est très moche à la visionneuse, propose une couverture de l'espace et donc un type urbain assez bien renseigné. Même si ce n'est pas tout à fait la même précision géométrique, on peut lui rajouter assez facilement bah, ma petite couche des relevés. Allez, ajoute-moi ça. Tu le fais ou tu le fais pas? Oui. Parce que là, c'est ajouté, terminé. Voilà. Voilà. J'ai mes petits points. Donc, calé sur un nouveau fond qui est un peu plus adapté. Il me reste plus qu'à trouver donc une couche sur les voies ferrées que je ne désespère pas d'intégrer. Voilà. Il suffit juste d'aller un peu baisser le fond de carte parce que le fond de carte est quand même assez fort, assez dense. Et l'on remarque effectivement d'un premier coup d'œil, j'ai des points un peu partout en ville. Les zones urbaines sont en rouge, couleur violette pour les zones un peu plus industrielles, les zones d'activité, mais la majorité des points effectivement se retrouvent en ville. Voilà. Donc là, on a un inventaire. Moi, je vous pousse quand même à vous poser la question du choix de fond de carte derrière, et c'était la raison de cette incursion dans ArcGIS Online. J'ai fait une copie un peu plus, une copie d'écran carrément d'un fond sur ArcGIS parce que j'ai pas eu le temps de l'intégrer directement. Puis là, il y avait beaucoup d'objets à intégrer, donc ça faisait un peu lourd à vous montrer. La solution la plus idéale de fond de carte pour ce semis de points, donc ça serait des forêts, de l'eau libre qui sont plutôt compris comme des barrières au développement des termites. L'urbain et les voies ferrées qui sont ici, qui sont plutôt les vecteurs de développement des termites. Et enfin, mes termites, ici. Ah, je n'ai pas renseigné mes petites hachures qui sont les arrêtés préfectoraux. Ah, si, ils sont là. Donc, les arrêtés préfectoraux qui sont le règlement légal qui concerne la protection aux termites. Et qui a une couverture, une définition spatiale. Ce règlement a une définition spatiale que j'ai vectorisée et projetée en même temps. Donc ça, c'est pour l'inventaire. Pensez un peu à imaginer un fond de carte assez adapté. J'en ferai une deuxième incursion sur New York. Alors, ce lien Internet nous renvoie sur un inventaire. Là, c'est typiquement un inventaire de sons enregistrés dans le New York des années 20, Roaring Twenties. Merci pour l'accent, qui est par là. Et alors, ils ont eu l'idée d'adapter le fond de carte. C'est ni plus ni moins derrière qu'un Google. Ils y ont calé, géoréférencé sur ce Google. Normalement, voilà, ils sont là. Un fond de carte de l'époque, et mais quand vous zoomez, le temps que le fond de carte se cale dessus, s'affiche, on retrouve le Google Maps de derrière. Voilà. Bon, pourquoi pas, ceci dit, ça permet de voir à la fois l'habillage historique, un peu comme l'habillage des années 40 à Paris, de Alpage à Paris aussi. On a les mêmes préoccupations d'avoir un fond de carte qui est adapté à l'information. Et ensuite, on peut aller surfer sur les petits points qui sont référencés ici et qui renvoient à des prises de son de l'époque ou alors des images ou alors des informations audiovisuelles de l'époque du New York des années 20. Donc ça, c'était pour l'inventaire. On va passer au deuxième niveau, la cartographie thématique. C'est bien d'avoir un semis de points. Parfait, on l'a représenté. On en a une vision globale. On peut y voir déjà y ressentir certaines hypothèses, certains axes de recherche. Mais derrière, il va falloir, on pourrait en faire une cartographie thématique. La cartographie thématique va y apporter une quantification. Cette quantification, donc ce semis de points conséquent avec toute cette richesse d'informations, on peut la passer dans une moulinette qui s'appelle l'agrégation ou la fusion. Qu'est-ce que c'est que l'agrégation? Ben, c'est par exemple, j'ai ces données, donc là mes données de thermite, tous mes renseignements. Je peux par exemple, à partir de mon information spatiale qui est sur ces colonnes rouges, eh bien ça, ce sont des communes. À chaque fois que j'ai la même commune, j'agrège mon information et je vais compter le nombre d'observations que j'ai dans cette commune. Donc la colonne ville va me permettre de faire la connexion à un maillage communal. Une commune se représente dans l'espace, suivant une zone. Je peux en faire à ce moment-là une représentation. Là, c'est le résultat de l'agrégation. Quand j'agrège tous mes points sur la commune de Tours, j'en compte 79, et ainsi de suite sur l'agglomération. À partir de ce simple petit tableau, mon code INSEE va être l'identifiant unique. Un identifiant unique, c'est un terme assez important et capital en termes de gestion de base de données. Il va me permettre d'établir une jointure. Donc on reprend typiquement les termes de système de gestion de base de données, une jointure pour glisser, retrouver cette information agrégée sur un fond de carte. Le tout va être ensuite de le traduire graphiquement. C'est tout l'enjeu de la cartographie. Là, j'ai un dénombrement. Je vais donc faire des cercles proportionnels à cet effectif. On entre donc dans la cartographie pure et dure, alors la géographie statistique, un exemple de site de géographie statistique que j'utilise assez fréquemment, c'est Geoclip. Alors fréquemment dans des situations où je dois parler de cartographie sans en avoir forcément un logiciel adapté pour tout le monde, là c'est un peu le cas. Je vais donc cliquer sur Geoclip. Donc Geoclip, c'est ce site internet. C'est une base de géographie statistique développée par une société qui s'appelle E égale MC3 à Toulouse. Et diverses institutions ont développé leurs données, ont rendu visibles leurs données grâce à cette plateforme d'analyse cartographique. Une version. Alors, on ne verra pas la version O3. On verra plutôt la version, cette version-là, France Découverte, qui est la première version que je trouve plus fluide et pour le coup qui est plus simple à comprendre. On a, comme tout à l'heure, observé sur les sites de web mapping des outils de navigation. Un outil de navigation qui vous permet de vous resituer dans l'espace cartographié, ici, bon, la France. Il faut savoir que d'autres pays se sont équipés, d'autres territoires que la France se sont équipés de Geoclip. On en trouve au Maroc, en Suisse, il doit y avoir même une couverture américaine, mais pas faite par des Américains, peut-être, si je me souviens bien, par une unité de recherche. Pour ce qui s'agit de la cartographie, dès qu'on a fait des agrégations, des sommes, des moyennes de nos semis de points, on entre dans la cartographie statistique. Et qu'est-ce que la cartographie statistique sur Geoclip? Ben, c'est par exemple, dans ce bloc de données, on retrouve une série, par exemple, de variables statistiques qui ont été hiérarchisées en trois niveaux. Donc on va prendre par exemple population. J'ai dit historique de la population, un sous-thème, et dans l'historique de la population, on va prendre la variable population. Voilà. Il vous propose des cercles proportionnels assez rapidement. Il faut dire que la fluidité est assez bluffante sur ce site. Normalement, vous avez à chaque fois les petites étiquettes, et ça marche. Avec la population, puisque c'est la variable que l'on a remarquée, le nom de la commune. Si je clique, je peux avoir une fiche analytique beaucoup plus complète qui va apparaître dans le tableau et le graphique, ici, dans ces onglets-là. Bon, sans rentrer dans le détail, je ne fais pas le panégyrique de Geoclip. Bon, il se trouve que c'est un outil assez souple pour vous montrer ce qu'est la carto. Souple parce qu'on peut changer les paramètres. Les cercles proportionnels, c'est bien, mais on peut soit les grossir. Ça devient un peu lisible. Donc je les baisse. Je peux changer l'opacité. Là, ils sont un peu transparents. Je peux choisir de les mettre tous opaques. Changer la couleur des cercles. Prendre des figurés beaucoup plus psychédéliques, genre ampoule. Ah, ça, c'est top. C'est lumineux comme carte. C'est génial. Donc, c'est typiquement un figuré creux que l'on proscrit pour ce genre de représentation. On préférera un figuré plus simple, puisque la quantité de cercles à poser est quand même assez considérable. Mais dès qu'il s'agit de phénomènes sociaux, on est quand même assez largement tributaire de l'armature urbaine de nos territoires. Effectivement, si vous voulez représenter par exemple les ménages de une personne dans les communes, on aura d'autant plus de chances de voir de ménages dans des communes peuplées, donc urbaines, que dans des communes moins peuplées, plutôt rurales. On relativisera donc ces populations, ces effectifs, ces dénombrements, en calculant plutôt des pourcentages, des densités. Donc je vais arrêter mes dénombrements, mes effectifs, et je vais aller prendre bah, par exemple les ménages de une personne, puisqu'on en parlait. Structure familiale, ça doit être. Voilà, c'est le premier, une personne. Et là, on a automatiquement donc un beau zonal ordonné, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que les rapports ne sont plus cartographiés suivant leurs proportions. Ça n'a pas de sens de faire des proportions de pourcentage. On donnera visuellement la notion d'ordre représentée par ces pourcentages. Cette notion d'ordre. Ces valeurs, toutes ces valeurs de communes vont être classées en ici 5 classes et ces paramètres, c'est paramétrable sous cette interface où l'on peut choisir un nombre de classes un peu plus important, 7, 8. Donc en cartographie, on vous conseille de ne pas dépasser 7, 8 quand même, grand maximum. 6, c'est déjà beaucoup. On vous proposera ben, une gamme de couleurs. Donc, on choisira plutôt pour. Hop là, il est bien noir, dis donc mon truc là. Oula, ça bug. Je sais pas pourquoi il me fait du noir. On choisira donc une progression couleur qui est plutôt de type dégradé. On vous propose de choisir le mode de classement. Donc, ce sont les fameuses méthodes de discrétisation statistique. Donc, qui joue sur les quantiles, qui joue sur l'écart type et la moyenne, des progressions logarithmiques, moyenne emboîtée, ou alors Jenks. En gros, c'est le mieux-disant, ça respecte les regroupements de données et ça essaye de trouver des regroupements naturels le mieux possible. Là, il vous propose cette discrétisation. Je vais revenir au premier niveau parce que là, c'est. Je ne sais pas pourquoi il me fait du noir. Comme quoi, ça bug. C'est pas normal. On doit être beaucoup dessus. Et à chaque fois que vous surfez là aussi sur les communes, vous avez. On le voit là. Ici, la barre qui vous indique la position de la commune que vous avez sur lequel vous que vous survolez, avec le nom et le pourcentage correspondant à cette commune. Les plus fortes valeurs, normalement, devraient être par là, 53. C'est étonnant, il y a plus de la moitié des personnes de ménage de une personne dans Tours. Mais vous inquiétez pas, à Nantes, c'est pire, c'est à. Non, c'est pas pire, je crois que c'est à côté, c'était 55. Hein. Il y avait un 55 quelque part. Et c'est marrant parce qu'il est blanc. Normalement, il devrait être d'une autre couleur. Donc, ça, c'est des méthodes de représentations cartographiques qui sont très classiques en cartographie. Ce type de représentation, c'est vraiment plus des trois quarts de cartes que vous pouvez observer dans les atlas, dans les publications. C'est vraiment très courant. Cette interface permet de régler les paramètres. D'autres institutions utilisant cette interface ne permettent pas forcément d'accéder à ces paramétrages. C'est pour ça que je suis resté sur cette version-là. Et comme disait Xavier tout à l'heure, les paramétrages sont parfois souvent figés et bien paramétrés dès le début. Alors, une autre... je reviens dans les paramètres. J'espère que ça va marcher. Une autre option qui est alors assez unique, si ça marche, c'est celle-ci, qui ne donne rien avec le vidéoprojecteur. C'est la coloration continue. Alors, c'est très drôle parce que normalement, c'est une méthode qui n'avait pas été retenue à l'époque par les cartographes. À l'époque, je remonte à notre Bible à tous, celle de Jacques Bertin, la sémiologie graphique 1967. Merci. Épuisé, pas la peine de chercher, il est épuisé. Pour cartographier des pourcentages, la méthode, c'était de classer et de montrer un seuil au maximum de 5-6 paliers de couleurs. Geoclip propose la coloration continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une valeur, il met, par une correspondance mathématique, la valeur du pourcentage correspondant à la valeur de la donnée. Par exemple, là, j'ai 20%, ben, il va mettre en gros l'équivalent de 40% de rouge, etc. C'est assez compliqué à lire. Si c'est compliqué à lire, je vous propose une aide. Et là, on entre un peu dans l'analyse spatiale. Il y a une option glissage. Et je reviens dans coloration continue. Dès qu'on lisse, je vais carrément lisser à 10 km. Vous allez voir. Voilà. Dès qu'on lisse, qu'est-ce que c'est que ce lissage? Il va prendre dans un rayon de 10 km ici, je l'ai fait exprès de prendre un truc assez gros, il va recalculer le pourcentage des communes qui sont dans ce rayon. Alors, on a une information zonale, il se peut qu'il y ait des communes qui soient partiellement inscrites dans ce rayon. Geoclip fait quelque chose d'assez simple, il ramène l'information zonale en un point, et si ce point est compris dans le cercle, eh bien, il va l'incorporer dans le calcul. Et de proche en proche, du coup, on a une perception d'un premier niveau de lecture de l'information, c'est-à-dire des centres plutôt fortement représentés en ménage d'une personne, une couronne périurbaine, et puis ce nuage moyen qui serait plutôt des confins ruraux, où les ménages d'une personne seraient plutôt le fait d'activités propres à ces espaces ruraux. Agriculture, les infirmières, les docteurs, j'en passe et des meilleurs. Si je réduis mon lissage et que je prends... Alors, on va prendre 6. Et je vais reprendre le... On entre plus dans quelque chose qui vous semble un peu difficile à lire, mais on retrouve un deuxième niveau de lecture, comme par exemple, tiens, les bourgs apparaissent, comme Chinon, la flèche, Sablé. On a un niveau de lecture beaucoup plus fin, qui descend dans un niveau urbain beaucoup plus détaillé, et on a une autre interprétation, une autre échelle d'interprétation de la carte. Donc là, c'est typiquement, et c'est la seule option que propose Geoclip, qui permet d'entrer un peu dans l'analyse spatiale, qui est... le troisième niveau de lecture que je voulais vous présenter. Donc ce troisième niveau de lecture intègre la distance, c'est-à-dire l'éloignement d'objets par rapport à d'autres, l'éloignement des communes par rapport à une distance à vol d'oiseau, comme je viens de vous l'indiquer. Ça peut être une distance topologique. Qu'est-ce que c'est que la topologie? C'est de dire qu'une commune est voisine d'une autre, par exemple. C'est de dire que sur un réseau... avec l'exemple des cheminements à l'époque romaine, c'est de dire que tel nœud de Tours est directement accessible à Orléans, à Nantes, je ne connais pas les noms romains, tu m'excuseras, ou à Bourges, mais j'ai vu que Bourges n'était pas directement connecté dans le réseau romain à Tours. Il fallait passer par Orléans. Voilà. C'est cette science qui, science entre guillemets, qui étudierait les connexions, la connectivité, les voisinages. Et donc on parle de distance topologique et la topologie a une forte implication. On va le voir dans les exemples que je vous montrerai tout à l'heure. La distance, c'est pas que du mètre. Et là aussi, les calculs d'itinéraire à l'époque romaine l'ont montré. Ça peut être des distances en coût de fonctionnement, en temps de parcours, etc. Donc toutes ces notions de distance qui peuvent, vous voyez, se décliner en différents paramètres sont intégrés dans ce niveau d'analyse spatiale. On entre réellement dans la métrique de l'espace. L'analyse spatiale, c'est aussi le moment où on pourrait s'abstraire du maillage administratif. Je vous ai montré une agrégation tout à l'heure par le tableau, par la table, hein, le tableau, suivant les communes. Mais je pourrais choisir, par exemple, pour Termissante, les termites se foutent royalement de se trouver à Tours, à Saint-Pierre, à La Riche ou à Ligret. Elles sautent 400 mètres au maximum. Donc l'idée, c'est de prendre un maillage complètement neutre de toute administration, de toute logique, bien que par ailleurs, le maillage administratif nous intéresse puisque ça nous permet d'aller discuter auprès des maires pour négocier. Ben, voyez, vous avez tant de lieux infestés sur votre commune. Pour la logique de modélisation du déplacement des termites qui nous intéresse dans ce projet, on va plutôt partir sur une maille neutre, un maillage carré. Donc ça pourrait s'assimiler à du raster. Là, entre autres, on va faire ça sur un maillage vectoriel, mais peu importe, c'est le même principe. On cale notre semis de points sur ce maillage et on obtient eh bien ça, des points dans lequel on a compté les. Alors là, ce ne sont pas des lieux infestés, c'est des lieux où on a fait des prélèvements. Ce n'est pas forcément l'information la plus adéquate. À terme, il faudra faire plutôt cette cartographie sur les lieux infestés. Là, on a compté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dans ces lieux-là. Donc le quartier, je vous présente le quartier Velpeau ici, où on a une personne. Non, ça va? Je vous présente le quartier Velpeau. Rassurez-vous, à Orléans, vous n'avez rien. Le quartier Velpeau, où il y a des fortes concentrations, un petit peu à Saint-Pierre. De toute manière, on n'a pas fini les relevés. J'ai vu les magasins généraux près de la gare de triage à Saint-Pierre-des-Corps qui sont quand même bien, bien pourvus, etc. Donc là, on a une information neutre. Ce type d'information, ce type de maillage neutre est aussi utile pour de l'information humaine, sociale. Et le maillage de l'INSEE, enfin l'INSEE propose une carte maillée de 200 mètres de côté. J'ai repris ce maillage pour compter mes relevés ici. Là, il s'agit de la carte maillée de l'INSEE où ils ont comptabilisé les gens qui habitent dans ces mailles grâce à leur système de recensement annuel. C'est désormais possible. Ça permet d'entrer dans la répartition infracommunale. Ce n'est pas inintéressant, puisque contrairement à Géoclip, eh bien, effectivement, on a des disparités à l'intérieur. On n'habite pas en plein milieu du lac de la Bergeronnerie, ni sur la Loire ou sur le Cher. Et on offre une autre dimension d'étude à notre espace. On va aller voir R. On va prendre l'R. L'R, c'est quoi? C'est l'atlas que je ne me gourre pas. L'atlas interactif des régions européennes. Est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne l'ai pas. Il est là. Donc l'atlas interactif des régions européennes propose, par exemple, une batterie d'indicateurs, un peu comme tout à l'heure, hiérarchisée en deux niveaux pour le coup. C'est un projet qui s'appuie sur normalement un projet SPON, c'est plus ou moins lié à un projet européen. Et il a l'avantage de proposer autre chose que des représentations classiques qu'il possède, il n'y a pas de souci. Les stocks, que eux appellent les stocks, donc ce sont les cercles proportionnels. Le 0, 1, 2, 3, c'est le niveau hiérarchique administratif. 0, c'est les pays. Et je descends dans une maille beaucoup plus fine que sont les départements, ou suivant les pays, ça s'appelle pas comme ça. Donc ça, c'est ce que l'on sait faire à peu près, c'est ce que savent faire à peu près tous les logiciels de cartographie. Les ratios, on a vu, pareil. Donc là, on étudiera plutôt des produits intérieurs bruts par rapport au nombre d'habitants. Donc on est dans un ratio, niveau 1, niveau 2, 3, on va éviter de trop solliciter, avec des écarts. Bon, on commence à observer des choses. Ouais, les pays nordiques, super. On peut mélanger les deux. C'est-à-dire que sur les cercles proportionnels, plutôt que de mettre une couleur homogène, eh bien on représente le ratio, les PIB par habitant, par exemple. Donc, en une pierre, on fait deux coups. En une carte, on traite deux informations. Et chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'autre série de représentations par lequel je vais commencer plutôt par le dernier. Celui-là, potentiel et carroyage, tente de s'abstraire de ce maillage administratif et propose, eh bien tiens, ça ressemble à quelque chose de connu, le lissage. Donc là, on n'est plus en 2 ou 3 km, on est plutôt en cinquantaine, en dizaines de kilomètres. 50 km, donc ma maille est assez petite, je peux monter à 300 km, ma maille est très grosse. Et là, exactement comme je le disais tout à l'heure, on est dans un niveau d'échelle d'interprétation plutôt continentale. On retrouve la fameuse dorsale européenne des régions riches, de Londres au nord de l'Italie. Et si je règle sur un lissage beaucoup plus fin, eh bien j'entre dans une répartition peut-être un peu plus urbaine. On retrouve Varsovie, ça doit être par là. Non, ça doit être à la frontière polonaise et tchèque, Cracovie, Ostrava en République tchèque, etc. On retrouve la dorsale, mais qui est beaucoup plus fine, beaucoup moins massive, avec la région parisienne, etc. Donc, on tente de s'abstraire du maillage administratif. Les carroyages, eh bien, c'est comme tout à l'heure, pareil. On a soit des mailles grossières. J'ai un niveau d'interprétation plutôt grossier. Là, c'est moins percutant. Si je tombe dans les mailles plus fines, je retrouve des masses un peu plus parlantes. Ces deux possibilités, carroyage et potentiel, en fait, sur cet atlas, moi je vous ai montré tout à l'heure les termites et je comptais mes points dans les carreaux. Ici, on n'a pas compté les gens ou la richesse, ça n'a pas de sens, par rapport à une information ponctuelle. On est parti en fait à l'origine de ce traitement d'une information zonale. Malheureusement, cette information zonale sur le maillage administratif a tendance à créer des biais. On retrouve peut-être des zones urbaines qui sont généralement sur des mailles plus fines. Donc on a des biais parce que justement la couche d'information d'origine à l'origine de ce calcul s'appuie encore sur du maillage administratif. À la différence de ce que je vous ai montré sur les termites, par exemple. On pourrait imaginer, par exemple, sur les enfants juifs, de faire des agrégations de ce type pour observer, pour quantifier et obtenir des représentations de ce type-là. Là où ça commence à être un peu plus intéressant, c'est l'analyse spatiale en termes de discontinuité. Ah, ça, c'est pas mal. Je vous parlais tout à l'heure de distance topologique. Ben, la distance topologique ici, c'est d'analyser les écarts entre les polygones voisins, entre ici les pays voisins. Donc un écart très grand, écart relatif entre la valeur du PIB par habitant de la Pologne et de l'Allemagne engendre un écart très très fort qui est à ce moment-là représenté par ces lignes plus ou moins épaisses. On remarque un écart très très fort entre la Grèce et la Bulgarie. Là, on est vraiment dans un jeu de distance topologique. Là, la distance topologique, l'écart de PIB par habitant est représenté par ces lignes de différentes épaisseurs. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, et là on va zoomer un petit peu, c'est d'observer par exemple que sur une même classe, là la classe de 6 000 à 15 000 euros par habitant, eh bien je peux avoir aussi des discontinuités. Alors c'est normal qu'ici vous en ayez une, parce que d'une part c'est une ville, Breslau, Wrocław. J'espère qu'il n'y a pas polonais ici. Et pourquoi ça se retrouve, pourquoi cette ville ne se retrouverait-elle pas dans une classe plus foncée? Puisque comme on est dans une différence relative, eh bien c'est vite fait de passer d'une échelle de 1 à 2 quand on passe de 1. Quand on a une valeur 1, il est plus facile de multiplier par 2 une valeur 1 et de passer à 2 que de multiplier par 2 une valeur 100 et de passer à 200. Donc nécessairement, dans les classes très faibles, on aura plutôt tendance à avoir de fortes disparités relatives qui sont représentées ici. On retrouve toujours l'opposition, l'ancien mur, l'ancien rideau de fer. Enfin, là, c'était pas le rideau de fer, mais bon, depuis que l'Allemagne de l'Est a été mangée, ça a quand même un petit peu progressé, qui est très fortement inscrit ici entre la Pologne et l'Allemagne. Et le dernier, puisque tu as terminé par des cartogrammes, on va terminer dans un bel ensemble, je vous propose des anamorphoses. Alors là, je vais revenir sur un... Tac, tac, tac. Hop. Les anamorphoses, eh bien, à la différence de tout à l'heure où on était dans un calcul suivant le réseau, là, l'idée, c'est de faire porter à la surface de chaque zone les proportions du PIB, par exemple ici. Donc je vais prendre les pays. Les pays représentés suivant leur surface au PIB, ça donne cette image. L'Allemagne, la France, mais des petits pays qui sont topographiquement pas très grands, en termes de richesse sont assez conséquents. Des grands pays qui, en termes spatiaux, sont quand même plutôt grands, mais en termes de richesse, sont quand même super bien cotés. Et à partir de ce maillage-là, il est simple, eh bien, d'y adjoindre un rapport, un ratio, ici le PIB par habitant. Là aussi, je fais une carte de représentation de variables statistiques. Si je rentre dans le maillage, eh bien, on entre dans la description de cette richesse. Globalement, on a des pays qui sont riches, oui, bon, d'accord. Mais si j'entre dans le maillage plus fin, je remarque que cette richesse vient des villes, la Randstadt-Hollande, la Bavière, le nord de l'Italie, ça doit être Milan et puis tout le nord-est, l'Émilie-Romagne, Rome. Vous avez la Grèce où là où la Grèce est monocéphale, hein, où il y a Athènes et puis c'est très curieux, il y a cette île, à mon avis c'est un bug. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette île, qui n'est pas une unité administrative particulière, où il n'y a pas de richesse, je vais vous en montrer un autre
Oh,
d'ailleurs, bug.
paradis fiscal.
Peut-être. Ben non, à ma connaissance, il n'y a pas de paradis fiscal. Je vais vous en montrer un autre plus proche de nous, alors,
Ah,
en
si,
paradis
ça, il était
fiscal.
bien.
Voilà. Alors, il y a ça qui m'étonne, qui m'épate. Je vous ai montré l'Est, mais vous avez le Loir-et-Cher ici. Autant qu'il y ait un rapport de discontinuité entre les Hauts-de-Seine et la banlieue, ça ne me choque pas. Mais qu'il y ait une discontinuité entre le Loir-et-Cher et le reste, alors ça m'épate quand même.
Par
Du
rapport au
foncier,
de la
département
Somme.
qui est juste au nord,
Hein?
peut-être
Le revenu foncier de la Somme.
Peut-être.
Bah si.
Ouais, peut-être.
Je pense que c'est le revenu foncier
Mais
en
ouais,
Sologne, quoi.
mais il y a
Non?
d'autres. La Sologne, c'est pas que le Loir-et-Cher. Ouais,
Ouais.
peut-être, mais je sais pas comment. Il faudrait voir un peu comment est comptabilisé le. Parce qu'en fait, on ne connaît pas le PIB par département. C'est un PIB régional qui est ventilé
D'accord.
par département. Donc, du coup, il y a des biais. Et s'ils ont pris comme ventilation, effectivement, les surfaces de propriété, il y a peut-être bien, peut-être un peu de ça. Donc voilà, je termine avec ce bon bol d'air pour conclure sur ça. Durant cette présentation longue et fastidieuse, technique et indigeste, vous avez peut-être vu que derrière, sous-jacent, était un objectif de représentation, une problématique, des hypothèses posées avant tout pour se lancer dans une représentation de quoi que ce soit. J'ai coutume de dire à tous ceux que je croise dans mon bureau ou ailleurs que je ne fais pas de cartes pour le plaisir de faire des cartes. Je fais des cartes parce que j'ai un projet bien précis et là, le web mapping, c'est ni plus ni moins aussi que ça. Je fais des cartes parce que on a un projet particulier. Voilà.